Ce matin, je suis allé faire mes courses. J'ai acheté quelques poireaux et de quoi faire un gâteau. Et comme la majorité des Français, je ne me suis pas réellement posé la question de si j'allais pouvoir manger à ma faim demain. Pour autant, l'alimentation est un enjeu majeur dans notre monde. D'abord parce que l'entièreté de la population mondiale n'y a pas accès comme il le faudrait, et puis aussi parce que cela peut être un atout de puissance, ou au contraire, d'impuissance. C'est pourquoi Romain, notre journaliste, a décidé aujourd'hui, dans ce troisième épisode de la rétrospective du géopolitique, de vous présenter l'ensemble des principaux points géopolitiques en rapport avec l'alimentation. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette rétrospective de l'année 2023. Alors, on va innover un peu, on va pas envisager un événement en particulier, mais plutôt une circonstance qui est celle de la géopolitique de l'alimentation, et on va étudier notamment sa place dans les conflits qui font rage en 2023. Notamment, j'aborderai la guerre en Ukraine, le conflit au Yémen qui dure depuis 2013. On envisagera dans un premier temps la place de l'alimentation dans les conflits au regard de l'histoire, avant de voir la coopération qui est née, qui est un enjeu crucial aujourd'hui autour de l'alimentation. Partons maintenant dans l'histoire pour parler de l'alimentation, et je pense qu'il y a notamment deux points à envisager. Le premier point est que l'alimentation a souvent été un déclencheur de conflits ou de tensions. Je baserai mon propos notamment sur Emmanuel Leroy Ladurie, un historien environnementaliste, qui a montré par exemple que pour la Révolution française de 1789, pour la Révolution démocratique de 1848, l'alimentation a joué ce rôle de facteur déclencheur, notamment de la prise de la Bastille le 14 juillet. En effet, en automne 1787, l'automne est pluvieux, on n'arrive pas à semer le blé. Le printemps et l'été 1788 sont des périodes d'échaudage des blés, la récolte est difficile, les prix augmentent beaucoup avec des stocks qui sont de plus en plus faibles, le pain devient de plus en plus cher. Le 10 juillet, on a des émeutes à Paris de subsistance sur le prix du pain et le 14 juillet, on a cette fameuse prise de la Bastille. Le scénario est à peu près le même pour 1848. En 1847, on a un échaudage des blés qui fait que le prix du pain est trop cher. L'État refuse de baisser le prix du pain. Et c'est le facteur déclencheur de la révolution de février 1848, bien sûr corrélé avec, par exemple, l'interdiction des banquets républicains par la monarchie de Juillet. Donc, l'alimentation, si on le voit dans ce sens-là, est pour beaucoup un facteur déclencheur des conflits, mais c'est aussi une arme. Alors, l'arme principale de l'alimentation, on la retrouve notamment, par exemple, en état de siège. Les sièges les plus connus peut-être pour les Français, si on remonte plus loin dans l'histoire, sont les sièges d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, le siège de la commune de Paris en 1871. Ces sièges n'ont qu'un but, bloquer les approvisionnements de l'extérieur d'une ville ou d'un territoire pour conduire à la famine et à la capitulation. L'alimentation est souvent soit un facteur, soit une arme des conflits, et cette arme des conflits persiste encore aujourd'hui, notamment on le voit à Gaza, notamment avec les Israéliens qui ont fait un blocus de Gaza, empêchant l'approvisionnement en eau de la bande de Gaza et en nourriture. Ce blocus a été, on va dire, empêché, notamment à partir du 24 novembre, par une trêve humanitaire qui a duré une semaine pour essayer de recourir aux populations de Gaza. C'est aussi une conséquence des conflits, la famine et l'alimentation en général, puisque par exemple, on peut parler de la guerre en Ukraine qui fait rage depuis le 22 février 2022. Cette guerre en Ukraine-là, elle engage la sûreté alimentaire d'1,7 milliard de personnes dans le monde, notamment dans des pays qui importent beaucoup de blé de l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine et la Russie, à elles deux, sont responsables de 25% des exportations en blé. Donc il y a des pays comme l'Égypte qui importent plus que de 50% de blé d'Ukraine et de Russie qui sont menacés par ce conflit, puisqu'on sait que la Russie a fait un embargo sur le blé ukrainien, gênant les exportations vers les pays étrangers. Donc, l'alimentation peut être une conséquence. Aujourd'hui, des conflits majeurs qui font rage dans notre monde. Notamment, c'est le cas, je vais prendre un dernier exemple, puisque je l'ai évoqué, le conflit du Yémen, où Plusieurs milliers de personnes, voire millions de personnes, sont menacées par cette guerre civile qui fait rage depuis 2013. Le Yémen étant une région très pauvre maintenant, le pays certainement le plus pauvre du monde, où les gens peinent à se nourrir, ça donne une situation de conflit. Il faut savoir que la famine aujourd'hui tue 25 000 personnes par jour, soit une personne toutes les 4 secondes, et qu'on a dans le monde 798 millions de personnes, selon la Croix-Rouge, qui sont victimes de la famine dans le monde. On a vu maintenant que l'alimentation était un des facteurs contribuant à un conflit, du moins soit facteur déclencheur, soit arme, soit conséquence. Mais est-ce que l'alimentation peut devenir un conflit en elle-même? Alors jusqu'aujourd'hui, les tensions sont plutôt mineures et sont notamment par exemple sur des tensions sur les zones économiques exclusives, donc sur les revendications des droits de pêche. Par exemple, on peut citer un conflit peu connu, mais qui est la guerre de l'anchois, qui est oppose la France et l'Espagne dans le golfe de Gascogne, sur la pêche de l'anchois, comme cela veut le dire. On a des conflits, notamment par exemple en mer d'Aral, où les deux fleuves principaux de cette mer, le Sir Daria et la Moudaria, sont détournés pour la production de coton, empêchant un accès en eau suffisant pour les pays en aval de cette mer, notamment l'Azerbaïdjan et j'en passe. Donc ces conflits-là, ils sont mineurs aujourd'hui dans le monde et ne conduisent à un conflit d'une ampleur internationale, même si le conflit de la mer d'Aral se déroule entre plusieurs pays. On a notamment un autre conflit sur le barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui viserait à construire un barrage sur le Nil, sauf que cela empêcherait l'écoulement de l'eau de manière suffisante pour l'Égypte, qui base l'essentiel de sa production autour du Nil et donc autour de ce fleuve. Toujours en Israël d'ailleurs, le conflit principal au début d'Israël était notamment sur la revendication des eaux du Jourdain qui traversent le territoire israélien. Donc on a des conflits comme ça sur tout le globe, mais qui ne conduisent pas à de réels conflits internationaux. Alors aujourd'hui, il est nécessaire de s'intéresser à la coopération autour de l'alimentation, et notamment face aux enjeux qui se présentent. Et si on veut éviter une démultiplication des tensions, l'alimentation doit devenir source de coopération, notamment par le biais d'une gouvernance internationale. Il y a plusieurs institutions qui agissent dans l'objectif, je cite, d'aider à construire un monde libéré de la faim. Les deux principales sont la FAO, Food and Agriculture Organization, qui dépend de l'ONU et qui est basée à Rome depuis 1945, dont la volonté est réellement annoncée par sa devise Fiat Panis, qu'il y ait du pain. Les missions premières de cette FAO sont de fournir une assistance technique aux pays en développement et de conseiller les gouvernements en matière alimentaire. Donc on voit que l'objectif est de réduire les famines dans le monde et d'éviter leur propagation. La seconde institution est le Programme Alimentaire Mondial, PAM, créé en 1962. C'est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde. Elle fonctionne par assistance alimentaire dans les situations d'urgence et agit dans les zones touchées par la malnutrition, comme on le voit au Yémen ou en Syrie. Donc, on voit qu'il y a une réelle gouvernance internationale qui se met en place et qui force les États à éviter les conflits par prise de mesures au niveau international. Les deuxièmes acteurs, dans l'optique d'éviter ces conflits, sont les organisations non gouvernementales qui proposent une assistance alimentaire aux populations. Je citerai par exemple la plus connue, la Croix-Rouge, dont 20 000 bénévoles ont distribué environ 31 000 tonnes de denrées à des populations dans le besoin. D'autres ONG comme Action contre la faim viennent en aide aux personnes les plus vulnérables pour les aider à prévenir, à détecter, à se munir contre la faim. Et enfin, on a une autre par exemple aux organisations non gouvernementales Vision du Monde. Malgré tout, on remarque des difficultés à éradiquer la faim, notamment du fait que la famine est instrumentalisée par les pouvoirs politiques et les groupes militaires pour détourner l'aide humanitaire. En effet, on a certains États, notamment en Afrique subsaharienne, des États autoritaires qui mettent des populations en situation de famine pour obtenir une aide humanitaire qu'ils, eux, vont détourner à des fins de pouvoir et d'instrumentalisation du pouvoir et des fonctions régaliennes. Donc ça crée un problème sur l'aide humanitaire qui ne va finalement, dans certains pays, plus à pallier les famines, mais plutôt à alimenter un pouvoir autoritaire. Sylvie Brunel, c'est certainement la géopolitologue qui a le plus étudié le sujet de l'alimentation. Elle s'inquiète aussi de la volonté des États à éradiquer la faim dans le monde. Elle définit par exemple les starving sections, des classes d'individus où la faim serait indéniable et qu'il ne faudrait donc pas aider. Donc ces classes sont notamment les classes populaires, les paysans, où dans cette optique, il ne faudrait pas fournir d'assistance alimentaire à ces classes parce qu'elles seraient vouées à avoir faim en toute leur vie, ce qui est assez horrible, j'en conviens. Donc voilà, j'ai essayé de montrer que l'alimentation a une grande place dans les conflits et qu'elle devient aujourd'hui un enjeu de coopération, notamment parce que des conflits en parallèle des grands conflits de notre monde se développent. Les institutions internationales et les ONG se heurtent à des freins qui rendent leur action difficile, comme notamment la souveraineté des États. Et au regard des chiffres qui ne cessent de croître, notamment sur la famine dans le monde, il n'est pas vain et absurde de penser que la guerre puisse évoluer vers une guerre alimentaire dans les prochaines décennies. J'ai essayé de brosser à grands traits un tableau de la géopolitique de l'alimentation aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai été très heureux de passer ces quelques minutes avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.
La géopolitique est avant tout une histoire de rapport de force et c'est d'autant plus exacerbé quand il s'agit de quelque chose de vital, comme l'alimentation. Je suis ravi que le géopolitique puisse vous proposer un épisode comme celui-ci et je remercie Romain d'y avoir contribué. Nous on se retrouve dans 2 jours pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. J'espère que vous appréciez autant cette rétrospective. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet @legeopolitique et legeopolitique.fr. À très bientôt en vous souhaitant une agréable journée.